devenir son leader.
Bonjour et bienvenue sur notre podcast Devenir son leader. Avec 52 épisodes pour changer de vie, notre podcast a pour but de vous donner des méthodes simples et efficaces pour devenir le leader que vous rêvez d'être, devenir son leader. Je suis Nicolas Lubache, orateur et formateur dans l'art de créer des discours et dans le leadership. Au début de notre programme, nous aurons la question des auditeurs et auditrices. Et aussi le plaisir d'interviewer notre leader du jour, Maud Lacroix. Et puis pour terminer, mon retour d'expérience d'un exercice que j'aurai testé pendant une semaine. Oser vivre sa vie. Waouh ! Quel thème passionnant ! Rentrons dans le vif du sujet avec la question de nos chers auditeurs et auditrices. Isabelle de Brignoles, 28 ans, et puéricultrice, qui nous pose la question suivante. Bonjour Nicolas, je n'aime plus mon travail et j'aimerais en changer. Pourtant, j'ai très peur et je n'ai aucune idée de comment sauter le pas. Comment je pourrais oser sauter le pas ? Alors merci Isabelle pour ta question. La vie pour beaucoup d'entre nous nous a tracé un chemin. Chemin influencé par nos parents, les expériences de la vie et nos croyances. Nous avons rarement une idée du vrai métier auquel on aspire et nous nous perdons souvent en route. Un matin, nous prenons conscience que notre vie n'est pas celle que l'on souhaite. Et lorsqu'on regarde en arrière, nous désespérons d'avoir perdu autant de temps dans une voie de garage. Mais rien n'est perdu. C'est le moment. Le moment où vous prenez enfin conscience de votre vie, de vos vraies valeurs et de vos vrais ressentis. C'est le bon moment aussi pour remettre en cause votre vie et de trouver enfin votre voie. Et cela commence par le respect. Respectez vos choix et les thèmes qui vous tiennent à cœur. Les sujets qui vous procurent de la joie sont souvent un signe libérateur, vous indiquant une potentielle direction à prendre. Mais comment oser passer à l'action ? Quelques inspirations vont nous venir de notre invité du jour, Maud Lacroix. Alors Maud, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Tu as 45 ans, tu es praticienne en hypnose ericksonienne et spécialiste de la charge mentale. Peux-tu m'expliquer Peux-tu m'expliquer que veut dire hypnose ericksonienne et spécialiste de la charge mentale ?
Alors, l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui est assez ancienne, qui vient de Monsieur Erickson. Et en fait, c'est une méthode de dissociation qui permet de passer à l'action, qui permet de réguler certains problèmes, comme par exemple la confiance en soi ou des changements qu'on a envie de créer dans sa vie pour arrêter de fumer. Enfin, voilà. C'est tout ce qui va concerner, en fait, les émotions, les problèmes qu'on peut avoir avec des émotions. Et moi, j'ai voulu mettre cette hypnose au service de la charge mentale pour toutes les femmes, notamment, qui sont débordées dans leur quotidien, qui n'arrivent plus trop à gérer tout ce qui est vie familiale, vie professionnelle, et qui ont envie de trouver des outils pour déjà se sentir mieux dans leur peau, et puis des outils pour savoir dire non, des outils pour savoir déléguer. Et puis également, j'ai voulu insérer à l'intérieur des outils d'organisation, de gestion du temps et également des outils de développement personnel pour se sentir mieux. Et puis, je fais ça dans des ateliers qui permettent en fait de se décharger mentalement et j'insère tous les éléments d'hypnose que je connais pour rendre cette partie de charge mentale beaucoup plus allégée en fait. Voilà.
Tu veux dire que la charge mentale est spécifique aux femmes ?
Je veux dire que la charge mentale concerne énormément de femmes en majorité. Donc, du coup, voilà, j'ai voulu avoir un public plutôt féminin parce que bah, c'est quelque chose qui, voilà, qui me touchait. En plus, la charge mentale m'a touchée aussi également à un moment donné. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui m'a concernée et du coup, j'ai aussi envie de m'adresser à d'autres femmes. Voilà, c'est vraiment pour ça. Après, je dis pas que certains hommes ne sont pas concernés par la charge mentale, mais ça l'est pas en majorité. Voilà.
D'accord. Tu parles de charge mentale, que cela t'a affecté. Comment ? Est-ce que tu veux dire que cette charge mentale t'a fait devenir praticienne en hypnose ?
Quelque part, oui, ça a été la raison. En fait, j'ai eu deux enfants. Et à la suite de la première fille, j'ai eu une dépression postpartum. Et du coup, j'ai essayé de régler des choses. J'ai déjà fait de l'EMDR. Et puis par la suite, je suis allée voir un hypnothérapeute pour essayer de régler plein de choses. Donc il y avait la notion de confiance en soi, il y avait la notion de pas savoir être dans le moment présent. J'avais du mal à gérer mes émotions. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose. J'avais pas une raison bien bien précise pour aller voir un hypnothérapeute, mais je savais qu'il y avait quelque chose à régler, et notamment cette charge mentale. J'étais constamment en train de penser à quelque chose alors que j'étais ailleurs, de faire quelque chose dans le moment présent alors qu'en fin de compte ça concernait quelque chose qui était dans le passé ou dans le futur. Enfin voilà, il y avait tout une espèce de voilà de brouillard un peu dans ma tête, de charge mentale. Hein, je me sentais débordée. Et bah finalement l'hypnose ça m'a vraiment permis de m'apaiser à ce niveau-là en remettant plein de choses en place hein, au niveau de mes valeurs, au niveau de mes objectifs de vie. On a vraiment eu le temps de travailler tout ça. Et bah sur le moment j'ai trouvé ça tellement fantastique comme outil en quelques séances de m'être vraiment trouvé moi en tant que personne finalement grâce à l'hypnose. J'avais jamais vraiment su qui j'étais et l'hypnose m'a permis ça. Donc ça me tenait vraiment à cœur de transmettre en fin de compte ce que j'avais reçu. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu sélectionner une école d'hypnose qui s'appelle l'Arche, hein, qui est une hypnose ericksonienne hein, reconnue par Kevin Finnell. Et j'avais vraiment envie de transmettre à mon tour, mais aussi à ma façon, et avec d'autres outils qui complètent la façon de régler la charge mentale et qui permettent aussi de se retrouver bien à ce moment-là. Et également d'avoir un épanouissement de soi. Voilà, avec des techniques que je propose lors de mes ateliers ou lors de formations, par exemple.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme technique ? J'ai entendu tout à l'heure que tu parlais aussi de EMDR. Peux-tu m'en dire un peu plus ?
Alors, l'EMDR, moi, je le fais aussi en hypnose. En fait, c'est un système qui permet de faire circuler, en fait, les informations entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Donc, en fait, ça va être par des mouvements réguliers, une oscillation qui va se faire au niveau des yeux, par exemple. Je vais pouvoir, par exemple, mettre mes doigts face à la personne et elle devra simplement suivre mes doigts de droite vers la gauche, de droite vers la gauche. Et en fait, en faisant cette simple, entre guillemets, hein, cette simple technique, ça va permettre de remonter des émotions. On va s'arrêter à un moment donné, la personne va prendre en compte ses émotions, elle va réussir à les gérer de mieux en mieux. Et on va continuer comme ça à avancer jusqu'à ce qu'elle arrive à un niveau où elle arrive en fait à se sentir bien à ce moment-là, à se sentir stabilisée et être suffisamment forte entre guillemets pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir en fait prendre du recul par rapport à sa situation. Parce que souvent quand on est en charge mentale par exemple, on voit pas réellement les choses telles qu'elles sont. On a vraiment l'impression d'être complètement submergé, d'être complètement envahi par des tonnes de choses à faire, par des tonnes d'émotions, alors qu'en fin de compte, tout le monde est dans la même situation, tout le monde a autant de choses à faire, mais dans la charge mentale, il y a une notion de fatigue qui s'installe, il y a une notion de désorganisation, il y a également une notion de plus trop savoir où est-ce qu'on en est dans sa vie et de plus arriver à gérer son temps. Et donc l'un des outils effectivement que je propose, il y a le MDR que j'adapte au niveau hypnose, mais il y a aussi des outils de la vie de tous les jours, des outils du quotidien. Par exemple, pour retrouver de l'énergie, je vais inciter la personne à créer sa propre routine matinale pour pouvoir se sentir en forme, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir positiver, parce qu'à l'intérieur, j'insère également de la psychologie positive. Je vais également proposer des outils d'organisation. Donc là, je vais proposer à la personne de faire du tri chez elle ou du tri même au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est vraiment une idée de faire du vide. Voilà, faire du vide pour pouvoir après, par derrière, amener des choses qui sont beaucoup plus positives avec des projets. Et puis, je vais également mettre en place un outil de gestion du temps que j'appelle un journal d'organisation positive. Et ce journal, qui va être rempli 5 minutes tous les soirs, en fait, va pouvoir permettre de programmer sa journée du lendemain pour voilà, dire bah, j'ai telle tâche à faire, j'ai tel rendez-vous, j'ai telle envie, tel projet à mettre en place. OK. Et du coup, c'est vraiment, voilà, c'est listé noir sur blanc. Donc, on sait exactement ce qu'on va faire dans la journée. Et tous ces outils qui sont simples à utiliser, hein, c'est vraiment, ça prend vraiment très très peu de temps, ça permet, après cette prise de conscience hypnotique, ça permet vraiment de mettre des actions quotidiennes pour pouvoir se sentir bien et ne plus ressentir cette charge de choses à faire qui reste la même. C'est pas qu'il y en a moins. Hein. Après, bon, on peut éventuellement demander à déléguer certaines choses. On peut aussi savoir dire non. Mais il y a autant de choses à faire, mais sauf qu'elles sont beaucoup mieux gérées dans la journée. Et surtout, on a retrouvé de l'énergie pour le faire. Donc, quand on retrouve de l'énergie, on retrouve de la productivité derrière, et cette productivité permet de faire des choses, en pleine forme et puis et de manière positive. C'est vraiment ça que j'avais envie de faire.
Maud, je te sens vraiment passionnée.
C'est le cas, c'est vraiment le
cas. L'hypnose t'a vraiment fait du bien, apparemment.
Oui, oui, complètement. Ah. En fait, ça m'a vraiment changé ma vie, hein, pour moi. Donc, c'est devenu une expérience qui est devenue une passion. Donc, voilà.
Mais ça se ressent, et ça se ressent. Pour revenir à tout à l'heure, tu parlais d'un journal que tu utilisais tous les soirs. On peut dire que ça fait partie d'un rituel. Quels sont tes rituels à toi?
Alors, mes rituels, bah, c'est justement ces fameux outils, finalement, que j'utilise. On peut vraiment appeler ça des rituels. Moi, j'appelle ça plutôt des habitudes, parce que je prône aussi les habitudes, le fait de mettre en place quelque chose tous les jours et régulièrement, ça permet, cette accumulation d'habitudes permet que ce soit des choses qui rentrent dans le quotidien. On n'a même plus besoin d'énergie pour les mettre en place et pour les faire. Donc effectivement, donc ce fameux journal d'organisation positive, je l'utilise donc tous les soirs à peu près 5 minutes. Hein, je prends un temps, c'est souvent d'ailleurs après manger, juste avant un film par exemple, où je prends 5 minutes pour faire un point sur ce que j'ai à faire le lendemain. Qu'est-ce que j'ai comme rendez-vous et je le note. Qu'est-ce que j'ai comme tâche à effectuer. C'est aussi bien les tâches ménagères, hein, que des tâches au niveau du travail. Voilà, c'est vraiment l'idée de refaire un point et puis de savoir, du coup, le lendemain, quand je me réveille, je me pose plus de questions, j'ai plus besoin de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Je sais déjà, je me lève et tac, je sais que j'ai tout ça à faire dans ma journée. Et j'essaye évidemment de pas surcharger la journée, parce que le but, c'est pas de ressentir un poids par rapport à ça. Comme autre rituel, j'ai aussi le matin, je fais donc une routine matinale, je me lève à 5h30 le matin pour faire du yoga. Je fais également de la lecture, je lis plutôt des livres documentaires, je fais de l'écriture, je fais de la méditation, je fais des affirmations et de la visualisation. Donc ça, je le fais tous les matins, ça me dure à peu près 1 heure. Et voilà, et c'est à peu près tout. Et puis après, comme j'ai pu aussi organiser ma maison et mon travail en optimisant en fin de compte la place et en faisant vraiment un gros vide dans toutes mes affaires matérielles, je range la maison un quart d'heure, voilà. Donc c'est vraiment très très peu. Et ça, je fais ça bah, tous les jours. Voilà. Et pour moi, je me dis que ces rituels, ces habitudes de routine matinale, de tri et de journal d'organisation, c'est finalement les seuls outils qui me sont nécessaires pour bah, me sentir bien et que je fais effectivement de manière habituelle et très très régulièrement.
Donc c'est une sorte de nettoyage intellectuel que tu fais tous les matins.
Ouais, c'est un nettoyage intellectuel et un nettoyage physique finalement, parce que en fait je me dis que quand on fait du tri chez soi, on fait du tri en soi, et c'est vraiment l'idée effectivement. C'est nettoyage intellectuel, c'est faire du point, un point sur ce qui s'est passé la veille par exemple, un point sur ce que j'ai envie de créer dans l'avenir, dans le futur, un point sur ce que je vais faire du coup dans le moment présent. Et ces allers-retours entre le passé et le présent, et également orienté vers le futur, qui fait qu'à un moment donné, du coup, je sais où me positionner, je sais où je suis dans ma journée par rapport à ce que j'ai envie de créer, par rapport à est-ce que j'ai bien fait ce que j'avais envie de faire, est-ce que je m'égare pas un petit peu dans mes objectifs, voilà. C'est pour moi, c'est vraiment une notion d'épanouissement également et de concrétisation de certains de mes objectifs qui se mettent en place du coup au fur et à mesure.
Justement, tu parlais du futur. Quels sont tes projets futurs ?
Alors mes projets futurs, c'est j'en ai beaucoup. Hein, j'ai plein d'envies. Comme tu disais, je suis une passionnée. Donc évidemment, c'est surtout de développer. Développer mes projets au niveau de mon accompagnement spécialisé dans la charge mentale. Donc je fais déjà des conférences, je mets déjà en place des ateliers et j'ai évidemment des rendez-vous individuels. J'aimerais également pouvoir faire des séminaires de 3-4 jours qui permettraient aux femmes en charge mentale et débordées de pouvoir recréer tout ça pour elles, mais à leur façon. L'idée, c'est pas de dire, voilà, moi j'ai une recette miracle, je sais tout faire, c'est pas du tout ça. C'est de proposer des outils et que, comme quand on va dans un supermarché, c'est de piocher là où les personnes ont envie, ont besoin, et que chacune puisse faire, puisse créer elle-même finalement leur rituel à leur façon, pour leur permettre de grandir et d'aller là où elles ont vraiment envie d'aller finalement.
Tu sens vraiment que tu as, parce que je vais revenir un peu sur le thème de mon sujet, de cet épisode, c'est oser. Et je vois que tu as vraiment osé dans toutes les directions, oser changer de vie, oser créer des rituels le matin. Et j'ai l'impression que tu vas de plus en plus loin chaque jour.
Alors tout à fait, finalement depuis que j'ai réussi à grâce à cette hypnose, hein, j'en reviens toujours à ça, mais depuis que j'ai réussi à sauter des barrières et à vraiment trouver qui j'étais et à m'affirmer, pour moi c'était un point de non-retour. Et depuis, je me lance sans arrêt des petits défis qui me permettent d'aller de plus en plus loin. Donc par exemple, un de mes premiers défis à la suite de ça, ça a été de faire un discours. J'étais parent d'élève dans une association de parents d'élèves, hein, et c'était de faire tout simplement un discours devant toute l'école. Donc, et en disant en plus que moi je le pensais. Et ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'ai également j'ai repris du théâtre j'avais fait un petit peu en tant qu'étudiante, mais j'étais pas j'étais un petit peu timide par rapport à ça. Et en fait, quand j'ai pris le théâtre, c'était du théâtre amateur, hein, et le metteur en scène qui tenait un festival m'a proposé de jouer dans une pièce de théâtre où on n'était que 4, et je devais jouer le rôle d'une schizophrène gothique. Alors j'avais énormément peur. Moi, c'était vraiment c'était un gros challenge, une grosse envie, mais c'était vraiment très très difficile. Et je me suis dit oui, mais il y a pas de raison, je vais y arriver. De toute façon, j'ai vraiment envie, faut que j'arrive à combattre cette timidité, ce trac, etc. Et donc je me suis jetée pour le faire et j'y suis allée et je me suis régalée, hein. Bon, j'ai mis 5-6 représentations avant de me lâcher complètement, mais voilà, c'est vraiment envie de me dire que quelque part que tout est possible. Alors, je dis pas que je dis pas que je fais de manière forcément facile, mais je me donne les moyens pour y arriver, parce que j'ai pas envie de rester. Enfin voilà, j'ai vu tout le parcours que j'ai déjà effectué, de personnes assez timides, pas vraiment introverties, mais voilà, qui étaient un petit peu réservées, qui n'osaient pas trop forcément s'exprimer. Et maintenant que j'ai commencé à ouvrir les portes là-dedans, j'ai plus du tout envie de m'arrêter. Donc je trouve tous les moyens pour continuer à avancer, à faire. Récemment, j'ai fait des vidéos, par exemple sur Facebook. Ça, c'est des choses que jamais j'aurais fait avant. J'ai créé mon entreprise d'auto-hypnose. Enfin, voilà, c'est un nouveau mode de fonctionnement, c'est celui de d'oser faire les choses. Après, c'est quelque chose qui me stimule, qui me challenge, qui me fait avancer et qui me fait aussi aller vers mon objectif, hein, pour développer mon entreprise. Donc, pour moi, voilà, ça me tient à cœur et puis ça me nourrit, en fait, hein, ça me nourrit vraiment. C'est le plaisir d'apprendre pour le plaisir de transmettre. Donc voilà, pour ça, pour arriver à faire ça, faut oser. Donc du coup, je me lance et j'y vais.
J'aimerais revenir en arrière, dans ton passé. Imagine que tu retrouves la jeune et jolie fille que tu étais à 14 ans, avec de l'expérience. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeune mode sur le fait de d'avancer dans la vie? Quel conseil tu lui donnerais?
Alors cette jeune mode de 14 ans, déjà, elle se trouvait pas forcément belle, enfin jolie, hein, pour cet âge-là. C'est à 14 ans, c'est un petit peu difficile. Donc du coup, je dirais que finalement, elle est assez jolie. Donc ça, déjà, je pense que ça lui ferait du bien de se l'entendre dire, ça lui ferait du bien elle pourrait se sentir un petit peu plus fière, elle pourrait se mettre en valeur un petit peu plus, elle pourrait s'exposer un peu plus face aux gens, hein. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais lui dire. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire d'autre? Ça serait lui dire qu'elle peut apporter des choses dans le monde, qu'elle a des choses à apporter, qu'elle a des choses à dire, qu'elle peut apporter sa propre valeur et qu'elle ose être elle-même, en fait, qu'elle ose être elle et l'exprimer. Voilà, je pense que ça aurait été peut-être un plus à ce moment-là, mais en même temps, si elle l'a pas fait à ce moment-là, c'est que c'était pas le bon moment. Je pense aussi que chaque personne a des expériences à vivre, a un parcours à suivre. Et que si c'était pas 14 ans, c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison. Donc peut-être qu'elle n'était pas encore assez mature, qu'elle n'était pas encore assez mûre, qu'elle avait d'autres expériences à faire et à vivre avant de trouver réellement son chemin. Donc voilà, c'est ce que peut-être j'aurais bien aimé entendre si à mes 14 ans.
C'est une très belle expérience que tu nous soumets là. Donc en gros, c'est tu lui aurais dit d'oser créer des petits défis pour se dépasser.
Oui, c'est ça, c'est se créer des défis et surtout peut-être aussi se dire qu'elle peut y arriver. Donc go, quoi, qu'elle y aille, qu'elle n'hésite pas à y aller.
Maud, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose?
Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ce que je pourrais rajouter, c'est, voilà, si j'avais peut-être des conseils, un conseil à donner éventuellement, c'est de, comme tu disais, mon mode de fonctionnement, c'est de oser. Et peut-être que pour oser, c'est au moins essayer un seul changement dans sa vie, mais un tout petit, tel que, par exemple, un exercice de méditation, 5 minutes le matin, ou par exemple faire de manière régulière, écrire dans un journal des choses positives, et de persévérer un petit peu à le faire pendant on dit qu'une habitude se prend en 21 jours. L'idée c'est surtout d'essayer de continuer à le faire pour voir les résultats. Et c'est mon conseil pour vous dire que quand on commence à avoir des résultats dans un domaine, ça veut peut-être dire qu'on peut essayer de le faire aussi dans un autre domaine, et que peut-être qu'en se rendant compte que ça, que ça fonctionne, ça incite à continuer à avancer et à oser de plus en plus.
Merci Maud pour toutes ces pour ton retour. Merci pour ton retour qui est intéressant. Tu nous as parlé des avantages positifs de l'hypnose, de l'EMDR, des habitudes, des rituels, du ressenti. Tu nous as aussi parlé parce que pour moi, tu es une leader qui a avancé, qui a osé se créer des défis. Et tu as utilisé de la méditation, tu utilises un journal pour te faire avancer, du nettoyage émotionnel de beau matin. Et tout ça dans la discipline. Et tu es allé très loin. Et pour ton retour, je te remercie énormément. C'était très inspirant. Je te remercie pour ça, Maud.
Merci à toi, Nicolas. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Merci à toi. Et maintenant, laissez-moi vous parler de mon retour d'expérience sur une méthode testée pendant une semaine sur notre thème « Oser ». J'avais décidé de tester la technique des rondes. L'exercice est impressionnant par sa simplicité et je vous préviens, dans certains cas, il faudra plus d'une semaine pour y arriver, mais le jeu en vaut la chandelle. Prenez une de vos plus grandes peurs et mettez-la par écrit. Alors pour moi, par exemple, c'était la peur de téléphoner. Alors oui, bizarrement, cela fait partie de mes peurs, mais je l'assume. Listez sur votre feuille, par rapport à votre peur, toutes les peurs directes et indirectes. Ensuite, priorisez vos peurs, de celui qui fait le moins peur jusqu'à la plus grande peur. Pour vous donner un exemple, pour moi, appeler ma sœur pour demander un renseignement, ça me dérange. C'est ma peur la plus faible. Ensuite, viens appeler le service après-vente. Et ensuite, appeler le magasin pour un litige par rapport à ma machine à laver. Mettez autant que vous voulez, mais moins d'une dizaine reste un bon compromis. Ensuite, dessinez un petit cercle au milieu de la feuille et mettez-y la peur la plus petite. Dessinez un petit cercle au milieu de votre feuille et mettez-y la peur la plus petite. Dessinez un cercle plus grand autour et mettez-y votre deuxième peur, et ainsi de suite. Vous allez vous retrouver avec plein de cercles, comme si vous jetiez un caillou dans l'eau. Attaquons maintenant la première bulle la plus facile et écrivez, donc par écrit, ce que vous allez dire ou faire et ensuite passez à l'action. Cette première étape réussie va vous motiver et vous donner confiance en vous. Une fois que vous aurez terminé la première bulle, passez ensuite à la deuxième bulle et ainsi de suite. Vous verrez, vous allez de plus en plus gagner confiance en vous et gagner en estime. Alors, faites cette technique. Faites cette technique de ronde. Vous allez progressivement gagner confiance en vous et oser tenter de plus en plus de rondes. Alors, je vous avertis, l'échec est possible. Cela va vous arriver. Prenez cet échec comme une opportunité de progresser. Car comme disait Lao Tzu, les échecs sont la base de la réussite. Pour terminer, je voudrais remercier notre inspirante leader, Maud Lacroix, pour sa vision sur « Oser dans la vie ». Notre prochain sujet traitera du sourire. Je vous remercie tous de suivre avec attention notre podcast et je vous dis à la semaine prochaine.